Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle belle aventure littéraire. Imaginez, la Révolution française fait rage et bien des choses se passent dans nos rues et ruelles. Et il y a un petit journaliste qui aime bien enquêter, fouiller, farfouiller. Et là, il va se retrouver face à une série de meurtres dans un lieu mythique de Paris dont nous allons parler rapidement. Pour nous raconter cette histoire, eh bien, un auteur que vous aimez, que vous appréciez, qui est toujours plein de finesse, qui est toujours à la pointe du détail historique dans lequel il mêle fiction et réalité, dans lequel nous retrouvons des personnages historiques. Là, nous allons nous retrouver dans une autre aventure, dans un autre suspense, mais nous allons y retrouver des personnages dont il avait déjà parlé dans ses deux précédents romans qui se passaient au moment de la Révolution française. Pour nous parler donc de ce nouveau livre, de ce nouveau roman suspense polar historique, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de nouveau d'accueillir Monsieur Henri Leuvenbruck.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir de nouveau accepté mon invitation pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, pour votre nouveau roman L'assassin de la rue Voltaire aux éditions Ixo. Alors nous avions eu le plaisir de vous accueillir pour vos deux précédents romans sur Le loup des cordeliers et Le mystère de la... Je ne sais jamais si c'est la main rouge ou le gant rouge, j'hésite toujours.
La main,
c'est bien comme ça, la main rouge, voilà.
Donc, ça aurait pu être un gant, c'est vrai.
C'est vrai.
À l'origine, c'est un gant.
Donc c'est pour ça que dans mon esprit, ça fait un peu confusion, voilà. Là, nous nous retrouvons pour L'assassin de la rue Voltaire. La Révolution française fait toujours rage et nous retrouvons bien sûr notre journaliste enquêteur préféré de ce moment de révolution, Gabriel Joly. Alors, ce livre est particulièrement, intéressant, non pas que les autres ne le sont pas, mais parce que là, vous nous emmenez dans un univers finalement assez fascinant qui est la comédie française et surtout les coulisses de la comédie française et nous allons y retrouver bien évidemment Gabriel Joly. Pourquoi avoir choisi ce lieu, là, des mythiques de Paris, très ancien, où il s'est passé tant de choses?
D'abord parce que à l'époque, la Comédie française était installée dans l'actuel théâtre de l'Odéon,
oui.
Qui a été construit pour elle, qui a ouvert en 1782, et donc la Comédie française venait de s'y installer,
oui.
Et que ce théâtre était en plein quartier des Cordeliers, c'est-à-dire le quartier où se situe l'intrigue de
Le loup des Cordeliers.
De tous mes romans, quasiment, oui. Sur la série de Gabriel Joly.
Oui.
C'est le quartier révolutionnaire où habite, oui, Danton, où habite des moulins, où habite Marat, où beaucoup de choses se passent, où voilà, c'est l'un des quartiers les plus agités de l'insurrection.
Mmh.
Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la Révolution était un sujet qui animait énormément la troupe, puisque la troupe a même fini par se scinder en deux, les comédiens d'un côté qui soutenaient plutôt l'insurrection et de l'autre ceux qui étaient plutôt favorables au roi et à la monarchie.
Oui.
Et du coup, on a une sorte de microcosme de ce qui s'est passé dans la France entière à l'époque de la Révolution. C'était pour moi intéressant de montrer ce foyer de vie qu'est la Comédie française, qui est une institution légendaire, qui elle aussi a été traversée par cette période si importante de notre histoire.
Mmh. Oui, j'imagine. Alors, nous y retrouvons Gabriel Joly, qui là va lui confier une enquête sur une série de meurtres et d'assassinats qui se passent à la Comédie française, tant au niveau des comédiens qu'au niveau du personnel. Et on va également y retrouver Danton. Alors, en plus, c'est à une période particulière du moment de la Révolution, c'est au moment de la Déclaration des droits du citoyen et de l'homme.
Oui, c'est toute fin du mois d'août, à partir, oui, du 22 exactement, que l'Assemblée va commencer à rédiger la Déclaration des droits de l'homme, qui est un peu le préambule aux textes qu'ils se sont promis d'écrire le jour où ils se sont assemblés pour la première fois. Et ça va être un procédé assez rapide, hein,
oui,
quasiment une semaine, pour un texte fondateur, enfin, qui est si important aujourd'hui,
oui,
mais dans lequel apparaît déjà ce qui, pour moi, restera le grand rendez-vous manqué de la Révolution française, c'est-à-dire l'absence totale de mention des femmes. C'est-à-dire qu'on a beau déclarer les droits de l'homme universels, on ne parle pas des femmes, et par exemple, on ne dit pas que le droit de vote, par exemple, est un droit que les hommes et les femmes doivent partager, et on ne parle pas de l'égalité des sexes dans cette déclaration des droits de l'homme. Et donc, on voit bien que l'aspiration populaire d'une équité et d'égalité des droits, en réalité, elle ne s'est pas incarnée dans la Déclaration des droits de l'homme. Et ça a été un grand rendez-vous raté. Donc, dans mon roman, on voit Thérogne de Méricourt, une petite révolutionnaire liégeoise, qui le remarque tout de suite, elle, qui comprend tout de suite qu'à ce moment-là, les femmes qui ont pourtant participé à la Révolution et au début de la Révolution...
Mais surtout elle, elle a joué un rôle important.
Et elle comprend tout de suite que les femmes vont être les laissées pour compte de ce tournant de l'histoire.
Oui. Alors je disais, la Révolution française fait rage. Au moment donc où à la Comédie française, il y a tout un tas de crimes perpétués. Donc Gabrielle Joly va prendre ça à bras-le-corps. Alors moi, ce qui m'a surprise, ça a toujours été, vous l'avez toujours décrit, il s'est toujours présenté, Gabrielle Joly, comme un personnage poli, rangé, propre sur lui, dirons-nous. Et là, je l'ai trouvé offensive, limite agressive. Il y va, il prend les choses à bras-le-corps, il rudoie un peu les gens. Il a pris de l'assurance, notre Gabrielle Joly.
Parce que je ne veux pas gâcher les choses.
On va tourner autour des choses.
Il n'aurait pas lu le deuxième, mais disons qu'à la fin du deuxième, il traverse une épreuve extrêmement difficile qui le plonge dans un désarroi et une tristesse dans lesquelles on le retrouve au début du troisième. Cette troisième aventure de Gabrielle Joly, c'est un peu celle de sa résurrection, ou en tout cas de sa rédemption possible. Est-ce qu'il va réussir à reprendre goût à la vie après avoir été si désespéré? Est-ce que c'est grâce à l'enquête, grâce à la tâche de résolution d'une énigme que Gabrielle va s'en sortir? C'est un peu la question qui est posée par cette troisième aventure, cette troisième enquête, qui est du coup vraiment beaucoup plus polar que les deux autres, et plus intimiste aussi pour toutes ces mêmes raisons. C'est-à-dire que là, on est plus dans le questionnement de Gabrielle, et du coup, ce questionnement se passe finalement dans une unité de lieu et de temps très théâtrale, et c'est par hasard, puisque je parle de la Comédie française.
Et oui, bien sûr.
À l'intérieur du théâtre, puisque quasiment les trois quarts du roman,
c'est du huis clos. C'est du huis clos
à l'intérieur du théâtre de la Comédie française.
Oui. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse pour nos éditrices et auditeurs. Bien évidemment, les trois livres doivent se lire à la suite, mais on peut aussi les lire individuellement. Mais pour comprendre la psychologie du personnage et de l'histoire, il faut commencer par Le Loup des Cordeliers, Le Mystère de la Main Rouge et L'Assassin de la Rue Voltaire. Voilà, comme ça, c'est un triptyque et les lecteurs auront l'ensemble des choses. Alors, évidemment, c'est un huis clos, on disait, au niveau de la Comédie française, d'où tous ces détails, en fait, on rentre dans les coulisses de cet endroit emblématique et mythique. Donc ça, c'est d'autant plus intéressant. Et alors, ce qui rend le suspense encore plus haletant, c'est justement, on le disait, un huis clos. C'est-à-dire les choses au travers des cours, des portes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression de traverser cette maison, cette grande maison digne, et en suivant l'assassin, ou les assassins, on ne dit rien, avec Gabrielle Joly. Est-ce que en même temps, c'était pas un petit risque, ce huis clos?
C'était un défi, en tout cas un risque, je ne sais pas, mais c'est un défi parce que c'est la première fois que j'écrivais un huis clos. J'avais jamais fait ça de ma vie. Il y a évidemment un aspect théâtral, mais surtout il y a un gros clin d'œil à Agatha Christie. C'est un roman dans lequel je pense que c'est mon roman hommage à Agatha Christie.
J'ai bien compris.
Gabrielle Joly joue au Hercule Poirot, en fait. On a tous les grands classiques.
200 ans plus tard.
Exactement. des romans d'Agatha Christie, c'est-à-dire un enquêteur très malin et un peu moqueur, qui est Gabrielle Joly. On a une galerie de suspects qui sont 11, et non pas 10.
C'est pas des petits nègres, c'est 11 comédiens, c'est 11 coupables.
On a cette scène de résolution finale où l'enquêteur réunit tous les suspects dans les mêmes pièces et un par un analyse leur alibi et leur mobile. Et voilà. Donc Donc j'avais très envie de faire cet hommage à Agatha Christie, qui
Alors,
m'amuse beaucoup, parce que c'était la littérature populaire que j'aime de ma jeunesse.
Oui.
Et je me suis rendu compte, en écrivant le roman, à quel point c'est difficile. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, ça a encore agrandi le respect et l'amour que j'ai pour Agatha Christie, parce que je me suis rendu compte à quel point ces romans qui peuvent paraître parfois légers ne le sont pas du tout. C'est très compliqué, c'est très, très, la structure est très complexe.
Diptinègue, Le Crime de l'Orient Express, tout ça, c'est dans des endroits, c'est des huis clos, les personnages vont et viennent, mais c'est toujours dans des endroits assez fermés, c'est toujours très compliqué de manier ce genre de choses. Alors, dans ce nouveau roman, on retrouve aussi, je dirais, un personnage que l'on croyait disparu, c'est le loup des Cordeliers.
Écoutez, oui. Après, les lecteurs découvriront pourquoi, mais finalement, le justicier masqué dont on pensait qu'il n'était plus là, et finalement, dès les premières pages, il réapparaît.
Alors, comment avez-vous travaillé? Parce que j'imagine que pour faire ce huis clos, il fallait entreprendre la connaissance des lieux et donc des coulisses de la comédie française. Alors, vous allez nous apprendre que vous êtes un grand comédien, que finalement, vous jouez tous les jours avec guichet fermé. Vous connaissez bien les coulisses?
Pas du tout. J'ai toujours été intéressé par le théâtre. Il m'arrive d'aller au théâtre. Pas assez souvent à mon goût, mais quand même de temps en temps.
Ouais.
Mais pour écrire le roman, évidemment, je me suis documenté énormément. J'ai passé beaucoup de temps sur la documentation pour essayer de rendre la vie de la comédie française au XVIIIe siècle la plus réaliste possible. Donc d'abord, j'ai passé beaucoup de temps avec l'archiviste de l'Odéon et de la comédie française, c'est-à-dire celle de la troupe et du théâtre où ils étaient à l'époque. Mais j'ai aussi lu énormément de textes pour savoir un peu... Ce qui m'intéressait surtout, c'était pas tant l'aspect théâtral, mais plutôt l'aspect quotidien. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un théâtre? C'était pas l'aspect artistique, finalement, dont je parle pas beaucoup, même s'il y a beaucoup de références au théâtre, mais je veux dire, c'est vraiment quels sont les ouvriers qui travaillent dans un théâtre, comment est-ce que fonctionne la machinerie d'un théâtre, quels sont les rapports entre les comédiens, les sociétaires, les pensionnaires, etc. J'ai passé beaucoup de temps à me renseigner sur la vie quotidienne de la comédie française en 1789, et j'ai trouvé ça passionnant, c'est très très intéressant, et du coup, ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre ça en scène. Je pense que pour le lecteur, c'est sympathique. C'est comme un voyage à l'étranger, finalement.
C'est
vous savez, d'aller visiter 1789.
C'est pas mal.
C'est comme si on faisait un voyage, quoi.
C'est ça. C'est un peu comme dans la série Outlander, où elle touche les pierres et elle se retrouve au XVIIIe siècle en Écosse.
Exactement.
C'est un peu
vous
ça.
Vous touchez un livre et vous vous retrouvez en 1789 à la Comédie.
Alors, je ne suis pas sûre que c'est une période que j'aurais voulu vivre. Hein. Mais en tout cas, il passait une journée à Ingpower, mais repartit vite. Hein. La période était quand même un peu trouble quand même, malgré tout. On y retrouve Danton, parce que c'était un des personnages de la Révolution de cette époque. Alors là, on le retrouve dans une posture un peu particulière, parce que il a fait un esclandre lors d'une représentation. Et est-ce qu'on peut dire qu'on va un peu le soupçonner, on va trouver des choses un petit peu curieuses.
Oui, bien sûr. Hein, bon, il faut savoir que cet épisode, je l'ai pas inventé, hein. C'est-à-dire que j'ai romancé un peu la suite,
bien sûr.
Mais l'épisode est réel, c'est-à-dire qu'il y a, il y a d'abord réellement eu un esclandre au théâtre français autour de la pièce de Chénier, Ferme Neuf, que la Comédie française refusait de jouer, que les principaux sociétaires refusaient de jouer parce qu'elle était trop sulfureuse et qu'elle était trop... ils estimaient que c'était trop dangereux de la jouer à un moment où la révolution grondait.
Ouais.
Et Danton a fait partie de cette cabale et de cette émeute qui a occasionné l'expulsion de tous les spectateurs du théâtre. Donc j'ai romancé la suite, mais cet épisode-là est réel et Danton y a vraiment participé.
Ce cher Danton.
Ce cher Danton. Pour l'instant, on peut encore dire ce cher Danton.
Oui.
En août 1789, il n'a pas encore fait trop de bêtises.
Pas encore.
Mais ça va, comme vous le savez, ça va devenir de plus en plus compliqué pour la plupart des protagonistes,
À part Camille Desmoulins. Oui, mais ça va devenir très compliqué pour les autres.
Qui est resté quand même, on va dire, relativement humain est sage et rationnel oui. jusqu'à la fin.
Oui, par rapport aux autres, oui, ça c'est sûr. Oui,
alors que Danton et Robespierre ont un peu rié, on va dire.
Oui, on va dire ça comme ça, voilà. Paix à leur âme, restons courtois. Eh bien, j'espère que ce qui va être courtois, c'est cette pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Henri Leuvenbruck sur son dernier roman L'assassin de la révolteur aux éditions XO et nous retrouvons donc notre journaliste préféré de cette époque, Gabriel Joly. Alors, je ne sais pas si c'est facile de le voir ou de le découvrir au travers de vos recherches et archives. Est-ce qu'il a pu réellement se passer ce genre de choses à la Comédie française? Est-ce qu'il y a eu des petites histoires comme ça ou des meurtres ou des histoires? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez découvert au fur et à mesure de vos recherches pour votre livre?
Alors, une série de meurtres comme celle que je raconte dans L'Assassin de la rue Voltaire, non, on n'a pas vu. Là, on est vraiment dans le roman. Oui, en revanche... Oui. La vie quotidienne de la troupe était pleine de rebondissements. C'était alors toutes les petites affaires de mœurs, de jalousie, de complot qui pouvait y avoir entre les comédiens. Ça c'était réel. C'était la vie du théâtre était très 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 mouvementée. C'est assez drôle de lire les mémoires des uns et des autres.
Et puis
il faut pas oublier que à l'époque le comédien est un statut très particulier. Les comédiens sont excommuniés encore en 1789. Ils sont encore victimes d'excommunication. Donc ça reste encore à l'époque cette espèce de carrière un peu particulière qui vous met encore très en dehors de la société. Aujourd'hui ça s'est beaucoup effacé, mais à l'époque être un comédien c'est un choix de vie très particulier, vous voyez.
Surtout pour les femmes, non, d'autant plus pour les femmes. C'était des métiers pas très bien vus.
Pour le coup, je vais vous dire, finalement, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que je pense que c'est un des rares milieux dans lesquels, en 1789, on est plus ou moins, voire vraiment, à égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui est exceptionnel, hein, parce que je peux vous dire que à l'époque, c'était rarement le cas, mais c'est par exemple le seul endroit où les femmes siègent au conseil d'administration, puisqu'à l'époque, la Comédie française est sous la même structure qu'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une société avec des actionnaires qui sont les sociétaires, qui sont les comédiens, qui partagent les bénéfices au prorata des parts qu'ils ont dans la société, etc. Et c'est pour ça qu'on les appelle des sociétaires. Et il y a des femmes, et les femmes sont très importantes, sont présentes lors des assemblées, prennent part aux décisions collectives. Enfin voilà. Donc et le succès que les actrices et les comédiennes peuvent avoir sur scène en fait des femmes qui en plus ont une certaine aura sociale. Voilà. Donc non, c'est un des rares endroits où au contraire, je pense que
une forme de parité.
Il y a une forme de parité, absolument.
Est-ce que vous avez eu un retour de certains comédiens ou sociétaires qui ont lu votre livre ?
Alors, des comédiens, des sociétaires, non. Pour l'instant, non. Mais ce sont des gens très occupés. Je ne suis pas sûr qu'ils aient encore eu le temps de lire le livre. Depuis, il n'est pas sorti depuis très longtemps.
Oui, c'est vrai.
Mais en revanche, de comédiens, oui. Et puis, des gens qui travaillent à la Comédie Française et à l'Odéon, oui, ça, j'en ai eu beaucoup. Mais j'avoue que je n'ai pas encore reçu de message de sociétaire. Donc, voilà. Mais je pense que c'est des gens, vous savez, qui doivent avoir très peu de temps pour lire des romans parce qu'ils doivent lire beaucoup de pièces de théâtre, répéter beaucoup et jouer beaucoup.
Oui, voilà. Enfin, bon, on lance un appel si quelqu'un, quelques-uns d'entre nous, voilà, n'hésitez pas à lire ou à prendre contact avec Henri Leuvenbruck pour le livre. Très intéressant, ils y retrouveront l'histoire de leur grande et belle maison, entre autres. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi toujours dans ce triptyque de Gabriel Joly, c'est que, bon, bien sûr, il y a le huis clos au niveau des meurtres et de la Comédie Française, mais on se balade aussi dans Paris, dans les petites rues, les ruelles, avec des quartiers qui ont parfois bien changé. Moi, je sais que dans le deuxième bouquin, je suis partie, j'avais noté tout ce que les références et les repères, et c'est vrai qu'il y a des endroits qui ont bien changé, mais en même temps, on retrouve quand même l'âme dans Paris. Paris sera toujours Paris. Est-ce que vous aimez vous balader comme ça dans Paris en imaginant ce que c'était ? Je suppose que pour écrire vos livres, c'est ce qui s'est parfois passé.
Oui, bien sûr. Oui. Évidemment, à chaque fois que alors moins plus le temps passe, moins j'ai besoin de le faire parce que je l'ai beaucoup fait. Mais évidemment, je suis allé dans tous les lieux, revisiter. Je suis parisien, donc je connais ma ville très bien depuis presque 50 ans maintenant.
Moi, je suis né à Paris, donc voilà aussi.
Je retourne voir les lieux que je décris à chaque fois pour m'imprégner finalement plus de l'ambiance et puis laisser l'imagination faire le reste et m'emmener. Voilà, bon, ça a été le cas aussi pour le théâtre, évidemment. Hein. Je suis allé visiter le théâtre de l'Odéon de la cave au grenier avec l'aide de l'archiviste qui m'a montré. Alors, évidemment, il a beaucoup changé, il a brûlé deux fois depuis le coup. Mais ça permet quand même d'abord de retrouver certaines choses qui étaient déjà là à l'époque, mais surtout de sentir l'âme des lieux. Voilà.
En tout cas, c'est un huis clos passionnant parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est un peu fermé, on a l'impression que les choses vont nous tomber sur la figure à chaque coin. Quand c'est dehors, quand c'était dans la rue, des deux précédents livres, bon, on avait un petit peu plus d'assurance, on pouvait un peu plus se planquer. Là, le huis clos, on est dans notre fauteuil avec le livre, on a l'impression on rentre la tête dans les épaules parce qu'on est dans la Comédie Française et on se demande ce qui va nous tomber dessus à chaque coin de porte ou de rideau. Est-ce que après ce livre, on va retrouver Gabriel Joly dans d'autres aventures ?
Bien sûr. Il va y en avoir, à mon avis, 6 ou 7. Je n'ai pas encore prévu le nombre exact. Tant que je m'amuse, je continue et je m'amuse énormément.
Oui.
Donc oui, il y en aura d'autres.
Et vos autres projets, sinon ? Donc d'autres,
je travaille en ce moment sur un roman qui va se passer en 1925, un polar un peu plus mystérieux, un peu plus sombre que la période révolutionnaire, enfin que le cycle de Gabriel Joly. Et voilà, qui sortira l'année prochaine. Et puis après, je reviendrai aux aventures de Gabriel.
1925, c'est les années folles à peu près.
C'est les années folles. On est en plein dans les années folles.
Alors, quand on écrit un personnage comme Gabriel Joly, est-ce que soi-même, en tant qu'auteur, écrivain et créateur de ce personnage, on se met dans la peau de Gabriel Joly, est-ce que vous êtes prêt à votre propre jeu, Henri Leuvenbruck ?
Écoute, été pas trop, non, parce que vous savez, bon, d'abord, c'est quand même 25 ans de métier, donc maintenant oui. J'ai pris l'habitude de me protéger de mes propres personnages.
D'accord.
Et puis, non, vous savez, c'est un peu c'est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que je pense que l'humeur de l'auteur influe beaucoup la vie des personnages. Voilà, c'est mm-hmm. plutôt moi, quand il m'arrive des choses dans ma vie de tous les jours, ouais. Et ben, ça peut avoir une influence sur les personnages de mes romans.
Voilà. D'accord, bon. Est-ce que quand vous avez fait vos recherches sur la comédie française, c'est-à-dire sur les coulisses, il y a des choses, alors probablement des tas de choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, étonnée dans l'organisation des coulisses, dans l'organisation de cette belle maison ?
Étonné, oui, enfin en tout cas j'ai appris beaucoup de choses,
oui.
Voilà, parce que alors ce qui m'a étonné le plus c'est le nombre de personnes qui étaient nécessaires, oui. À faire fonctionner un théâtre comme celui-là, c'est-à-dire à peu près 130 employés,
ah oui.
quotidiennement,
mm-hmm.
Mais il faut savoir qu'à l'époque la Comédie Française, je jouais deux fois par jour, il y avait deux pièces tous les soirs,
mm-hmm.
Jouées par la Comédie Française, dont on a toutes les traces, puisqu'on a tous les registres de la Comédie Française que j'ai pu consulter, j'ai eu la chance de oui. pouvoir consulter l'intégralité de la documentation de la Comédie Française, c'est-à-dire à la fois les registres des feux, les registres d'assemblée, j'ai pu même la comptabilité, enfin j'ai vraiment eu accès à toute la documentation de la Comédie Française, et c'est passionnant, c'est plus ça qui m'a passionné, c'est d'avoir la possibilité de suivre quasiment au jour le jour la vie de cette troupe en 1789, et c'est passionnant, il se passe des choses tous les jours.
Est-ce que les comédiens étaient assez libres de jouer les pièces qu'ils voulaient, en rapport qu'ils pouvaient exprimer les choses de manière satirique ou autre, de manière détournée par rapport aux événements extérieurs, par rapport à l'évolution ? Est-ce qu'ils étaient relativement libres, sans être inquiétés, et pouvaient dire, exprimer les choses comme ils le souhaitaient ?
Non, bien sûr que non. Ouais. Et il y a encore une censure royale qui s'exerce, alors
ouais.
qui est moins officielle, puisque depuis quelques mois, en 1789, ce qu'on appelle les gentilshommes de la cour, c'est-à-dire ceux qui administraient la troupe, ont cédé leur place à la Commune de Paris, c'est-à-dire que désormais, c'est le maire de Paris qui est le responsable, on va dire, le tutélaire de la Comédie Française. Mais les acteurs, normalement, sont censés choisir eux-mêmes ce qu'ils vont jouer. Mais ils s'auto-censurent. Ils savent très bien qu'il y a certaines pièces qui les jouent. Eh bien, leur pension royale va disparaître. Et puis, il peut leur arriver des soucis. Donc, il y a encore une censure qui s'exerce, ou au minimum une auto-censure.
Est-ce que malgré tout, dans les archives, certains ont eu des problèmes sans à être exécutés ? Est-ce que certains, oui, ont rencontré des problèmes, ont été inquiétés ? En étant réfractaires,
surtout plus tard, c'est-à-dire que pendant la Terreur, quasiment toute la troupe a été arrêtée. Hein.
Ouais.
Quasiment tous les comédiens ont fini derrière les verrous. Plus tard, mais ça c'est pas en 1789,
ouais, c'est plus,
1789 non. Alors, mais par contre précédemment, bien sûr, oui. Mais vous savez, les comédiens étaient persécutés au jour le jour. C'est quand même des gens qui n'avaient pas le droit de vote. C'est quand même des gens qui étaient excommuniés, qui du coup ne pouvaient pas avoir de mariage religieux, avoir d'enterrement religieux. Ça reste des gens qui sont tous les jours persécutés et paradoxalement qui sont à la fois glorifiés, célébrés, adorés de la foule.
Parce que justement, pour les gens, le commun des mortels, ils expriment des choses tout haut que le peuple pense tout bas et qu'eux ne peuvent pas forcément exprimer
oui,
aussi.
Oui, exactement. Alors, toujours avec beaucoup au début, avec beaucoup de discrétion, et plus le temps va aller, plus la parole va se libérer, notamment à travers Talma, qui est l'un des jeunes comédiens de la Comédie Française en 1789, qui va être un de ceux qui, petit à petit, va devenir des plus véhéments. Et voilà.
Je vous remercie infiniment pour ce moment. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Je rappelle le titre du livre, L'assassin de la rue Voltaire aux éditions IXO.
Je vous remercie encore une fois de votre accueil.
Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Eh bien, j'espère que nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures littéraires. En attendant, prenez soin de vous et bonne lecture. À bientôt.